chère sœur, cher frère en Christ, bonjour encore. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour envers nous tous ici. Sanctifie-nous à ce moment quand nous voulons partager le pain de vie, ta parole. Parle-nous, Seigneur, parce que nous t'écoutons. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Purifie les lèvres qui vont transmettre cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Livre Néhémie. Nous aurons une lecture fragmentée. Nous allons lire dans Néhémie, chapitre 2, verset 10. Nous allons sauter au 19e jusqu'au 20e verset. Et nous allons en même temps lire Néhémie, chapitre 4, verset 6, 9, 13, 21 jusqu'à 22. Nous pouvons ne pas lire tous ces versets, mais la méditation de ce matin sera focalisée sur ces quelques versets. Je peux lire le 10e verset de Néhémie. Sanballat, les Honorites, les Tobias, serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Je saute au verset 19. Sanballat, les Honorites, Tobias, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? » Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir de Jérusalem. » Je voudrais qu'on saute au 4e chapitre de Néhémie et je voudrais que nous lisions le verset 21 à 22. Chapitre 4, 21 à 22. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, et chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, le thème général qui est intitulé « La parole, de la parole à l'action ». Vous savez, dans la foi, nous avons une parole sur laquelle nous avons fondé notre foi, mais il faut aussi l'action. Mais dans cette perspective, le sujet du jour, le sujet d'aujourd'hui, c'est le prêtre et sa gestion à la manière de Néhémie. Nous allons voir comment Néhémie a géré l'épreuve. Pourquoi? Parce que vous savez, comme vous venez de le chanter même ici, comme le pasteur vient de le dire, nous avons le salut en Jésus-Christ, mais nous avons la mission de continuer à proclamer ce salut, un salut spirituel, un salut intégral à tout le monde, à toute l'humanité. C'est ça la mission de tout chrétien. Si vous avez été, vous avez cru à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comprenez très bien que vous avez cette mission de ramener les âmes à Christ aussi. Et c'est la mission que nous avons. Mais dans cette marche de proclamer et d'accomplir notre mission, il y a des obstacles, il y a des épreuves. Il y a des tentations qui peuvent même nous décourager au point que nous pouvons lâcher si Nous ne nous inspirons pas de la parole de Dieu comme celle que nous allons méditer ce matin. Vous savez, notre marche comme chrétien dans la mission, dans l'accomplissement de notre mission, il y a trop d'épreuves. Certaines épreuves peuvent venir de nous-mêmes. Certaines tentations peuvent venir des amis, des personnes que nous rencontrons, de tout l'environnement dans lequel nous voulons accomplir cette mission. Et certaines épreuves peuvent être permises aussi par Dieu pour tester notre foi, pour nous permettre d'être solides dans la foi. Dieu ne peut pas nous soumettre à une épreuve pour nous faire chuter, mais plutôt c'est pour nous sanctifier et pour consolider et renforcer notre foi. Mais il y a aussi d'autres épreuves qui peuvent venir de l'opposant. L'opposant qui est contre la volonté de Dieu et qui peut aussi nous tenter au point que si nous nous décourageons, nous n'allons plus accomplir la mission pour laquelle nous avons été appelés. Et c'est la raison pour laquelle, pour savoir comment gérer ces épreuves, nous nous inspirons de cet exemple. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, comment ils ont géré les épreuves et qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux pour renforcer aussi, nous renforcer, pour savoir comment nous pouvons nous comporter devant les épreuves. Ici, il s'agit de Néhémie. Néhémie, beaucoup ont toujours pensé qu'il était prophète de profession, mais en réalité, Néhémie, c'est une personne qui n'était pas initialement prophète. Il travaillait dans la cour du roi des Perses. Le roi des Perses n'était pas un roi juif. Du roi des Perses. Lorsque la plupart des Juifs, à cause des tentations, à cause de leurs péchés, les Juifs ont été déportés, mais Néhémie, lui, vivait comme exilé en Perse et il travaillait dans la cour du roi pour servir le roi. Il était fonctionnaire dans cette cour du roi. Mais les autres, quand bien même les autres, certains Juifs sont partis en exil ou être dispersés partout à cause de leurs péchés. Dieu a permis, il les a soumis à cette épreuve parce qu'ils ont péché. Et quand ils ont péché, Dieu pouvait permettre qu'ils soient aussi déportés et aller réfléchir sur leur alliance avec Dieu. Donc Dieu ne les tente pas pour les laisser mourir, mais plutôt pour les récupérer. C'est ça l'épreuve à laquelle Dieu a soumis parfois son peuple. Il a permis ça, il pouvait permettre ça. D'autres sont restés aussi à Jérusalem, d'autres Juifs. Et ce sont ces personnes qui sont restées à Jérusalem qui ont informé Néhémie que les murailles de Jérusalem ont été détruites. Le temple de Jérusalem a été délabré à cause de l'ennemi. Quand Néhémie a appris cela, il n'était pas tranquille. Même quand il vivait en exil, il portait à lui sa foi à son Dieu, l'honneur à son Dieu. Il est parti avec ça. Et cela l'a rendu triste. Si vous lisez le premier chapitre, vous trouverez ce dont je parle ici. Il n'était pas heureux quand il a appris cela. Il a souffert dans son cœur. Il s'est rappelé immédiatement. Il a compris que c'est une tentation, une forte tentation d'aller jusqu'à détruire les murailles du temple. Pour lui, c'est là que réside le Seigneur. Il a immédiatement recouru à la prière. Il s'est rappelé de la parole de Dieu. Si vous lisez le verset 9 du premier chapitre, il a d'abord commencé à rappeler à Dieu, vous avez dit que si nous péchons, vous pouvez nous pardonner si nous revenons vers vous. Maintenant, la prière que j'ai faite ici, c'est au nom de mon peuple, pardonne-nous nos péchés. Je sais que nous subissons ceci parce que nous avons péché. Alors il confesse le péché de son peuple et après il demande à Dieu d'écouter et d'exaucer sa prière. Il a compris que cette épreuve, il ne peut pas la vaincre s'il ne se remet pas à Dieu, s'il ne prie pas. Bien sûr, ça peut donner de la colère, mais quand vous apprenez que votre propre cité est détruite, celui qui a la force peut se dire, moi aussi, je vais me battre avec toute mon énergie. Nous en avons des expériences. Certaines de nos villes sont parfois détruites. Mais si vous y allez sans commencer à la source, qui est Dieu, que Dieu vous accompagne, vous risquez de commettre aussi un autre dégât qui ne résoudra même pas le problème. Il a reconnu que Dieu peut changer la chose. C'est pourquoi il est revenu à la prière pour gérer cette épreuve ici. La colère. C'est ainsi qu'en allant servir son maître, il s'est présenté. Donc, après avoir prié, après s'être recueilli, il vient devant le roi. Il sollicite au roi l'autorisation d'aller à Jérusalem et reconstruire sa cité. Tout ceci, nous le trouvons dans le deuxième chapitre. Les rois, parce qu'il est parti devant les rois après avoir prié, que Dieu lui permette d'accomplir cette mission. Il a compris que cette mission de la reconstruction de sa ville pour l'honneur de Dieu lui revient. Alors, c'est ainsi qu'il est parti et la route s'est ouverte. Le roi lui a facilité le voyage. Il lui accorde l'aide pour avoir construit ses murs. Et il lui accorde même certaines faveurs parce qu'il a négocié. Il a demandé qu'on lui donne une autre autorisation pour traverser les autres provinces afin qu'il ne rencontre plus d'obstacles sur sa route. Même les bois pour la reconstruction de la maison où il va rester, il a demandé et il a reçu cette faveur. Maintenant, la mission est accordée. Il doit normalement aller construire sans beaucoup de peine. Mais le plus grand problème, les ennemis se sont érigés sur sa voie. Nous avons parlé de Tobia, nous avons parlé de Sanballat et les autres. Ces ennemis-là, si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre 4, vous trouverez que parmi ces ennemis, il y avait les ennemis de l'extérieur, mais aussi les ennemis de l'extérieur avaient déjà commencé à corrompre certains juifs pour que la mission ne s'accomplisse pas. Il les a corrompus et chaque fois, il propose des stratégies qui peuvent compromettre même cette œuvre. C'est ainsi qu'avec la prière, Néhémie a pu contourner ces épreuves-là. La prière. Après avoir prié, il ne s'était pas arrêté là. Très souvent, quand nous sommes devant l'épreuve, nous prions, nous croyons que Dieu va descendre maintenant pour racler toutes choses qui se dressent sur notre voie, qui nous empêchent de réaliser notre mission. Dieu ne nous demande pas de faire ça. Il sait qu'à part la prière, quand nous nous confions à lui, maintenant il travaille avec l'être humain qui a compris qu'il est en mission. Néhémie ne s'est même pas arrêté à sa colère. Il devrait poser une action. Si vous voyez de très près, Néhémie arrive même jusqu'à convaincre. D'abord, il fait des investigations pour identifier les degrés de cette épreuve-là. Comment le temple est construit. Dans sa stratégie, il ne veut même pas informer. Il ne forme pas encore plusieurs personnes parce qu'il sait qu'ils peuvent s'ériger comme obstacle à les décourageant, à l'intimidant ou même en empêchant qu'il accède à l'endroit. Il a fait cela. Il a commencé à aller la nuit pour faire l'investigation afin d'identifier les degrés de destruction. C'est une action ici de la prière, du courage, de l'assurance que Dieu fera le travail avec lui. Nous insistons sur cela parce que Nombreux d'entre nous, quand nous sommes devant l'épreuve, nous avons tendance à baisser les mains et dire, Seigneur, viens enlever ceci. Le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de moi pour réaliser cette mission. Nous servons des mains du Seigneur et lui nous accompagne. Mais nous lui demandons l'autorisation et nous nous assurons réellement que Dieu est de notre côté. Ce que nous voulons faire réellement va dans la perspective de la volonté de Dieu. Et après, quand Néhémie a trouvé qu'il y a ces obstacles, ces autres-là, ce n'est que lorsqu'il était rassuré qu'il vient de prendre la stratégie, il a développé maintenant une stratégie sous la conduite de la sagesse de Dieu. Il était conduit. Après avoir prié, après vous être abandonné, tous les découragements sont dissipés et vous pouvez avancer parce que vous êtes rassuré que Dieu est avec vous dans cette épreuve-là. La prière, c'est une arme qui est très puissante, qui nous permet même d'affronter ce que nous ne pourrions pas affronter de nos propres forces. Et les ennemis continuent à intimider. Quand Néhémie trace ses stratégies, il comprend qu'il ne peut pas aussi le faire seul. Il cherche des personnes qui ont le même cœur que lui dans cette affaire pour la reconstruction du temple. Ici, au verset 3, si nous lisons même du 11e à continuer, vous trouvez que Néhémie mobilise. Il mobilise, il conscientise les magistrats, il conscientise les autres pour qu'ils puissent se joindre à lui pour aller reconstruire le temple. C'est une stratégie qui tend vers l'action. Donc, vous ne pouvez pas agir sans identifier le type de preuve et vous ne pouvez pas aussi surmonter cette épreuve si vous ne développez pas une stratégie. Mais sous la sagesse, sous la conduite de Dieu que nous trouvons dans la prière. Les ennemis ont utilisé aussi des stratégies pour pouvoir les décourager, pour l'intimider. Est-ce que vous voulez vous révolter contre les rois? C'est la raison pour laquelle vous voulez venir construire. Qui êtes-vous? Et après, à la suite, si vous lisez jusqu'au 4e chapitre, vous allez voir lorsqu'ils ont trouvé finalement que les gens se sont mobilisés, hein? La mobilisation des autres dans la prière, dans l'action, c'est aussi une bonne stratégie pour contourner et surmonter l'épreuve, les obstacles, les défis. Il y a des défis que nous ne pouvons pas, auxquels nous ne pouvons pas faire face seuls, mais il faut identifier des personnes qui ont la même foi que vous. La première, j'ai dit la prière. La deuxième, j'ai dit la mobilisation, développement de la stratégie. Troisième, il identifie, il mobilise les gens. Autre chose, quand ils veulent l'intimider pour le décourager, il continue à rassurer le peuple. Nous allons bâtir. Et eux aussi, de commun accord, ils ont dit, nous allons bâtir. Pourquoi ils sont rassurés? Si nous lisons le 4e verset, notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fait retomber leurs insultes sur leur tête. Néhémie continue à prier. On les méprise. Qui sont-ils d'ailleurs? En un seul jour, nous pouvons même démolir tout ce qu'ils ont érigé. Laissez-les comme ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés parce qu'ils étaient rassurés que leur Dieu, l'œuvre qu'ils font, c'est l'œuvre de Dieu. Néhémie s'est identifié d'ailleurs à cette œuvre, à l'œuvre de Dieu, en disant, nous sommes des serviteurs. Comme serviteurs, nous n'aurons pas peur. Notre Dieu va nous appuyer et nous allons construire ce temple. Devant les épreuves, il a pu dire ça. Et comme il s'est préparé les ennemis, j'insiste surtout sur les épreuves-là, il s'est préparé à aller démolir, même s'il s'engage. Quand ils ont vu qu'ils sont déterminés, ils ont dit, « Tout à l'heure, on est chaque ange. On va leur prouver que nous sommes forts. Nous pouvons détruire ce qu'ils ont fait. Néhémie, toujours la prière était devant. C'est ainsi qu'ils ont dit non. Comme ils sont armés et qu'ils sont capables de venir détruire, ça c'était un grand obstacle pour la réalisation de notre mission. Néhémie n'est pas allé main vide. Quand il a rassemblé le peuple, et il était vigilant. La vigilance devant l'épreuve, il faut être vigilant devant l'épreuve. Vous voyez, parfois nous tombons dedans quand nous ne sommes pas vigilants, quand nous croyons que les choses iront de soi sans notre responsabilité. Après avoir prié, Mungu ni épouche, éloigne-moi de la tentation. Or, la tentation est là. Mais comment tu te prépares pour faire face à cette tentation? Si tu trouves même que tu n'as pas de force, autant mieux encore te joindre à d'autres personnes pour te tenir dans la prière, te soutenir, afin que tu puisses surmonter la tentation. Et il y a des tentations qui nécessiteraient même que quelqu'un se dise, en tout cas, je me retire. Si je peux donner seulement un exemple, des garçons qui ont ce que nous appelons le palais, hein, la maison des garçons, et qu'une fille s'amène aux heures qui ne sont pas appropriées. Et vous dites, éloigne de moi la tentation. Et vous-même, vous ne faites rien pour expulser, pour demander à cette fille de sortir. Vous croyez que vous avez assez de force si vous ne priez pas et si vous ne prenez pas une stratégie de ne plus jamais accueillir les filles dans votre propre chambre, château, vous l'appelez château. Pas seulement les garçons, même les femmes aussi. Un homme qui vous invite quelque part, c'est une épreuve. Il veut voir, on a toujours dit que c'est une femme intègre, maintenant on va voir. Il vous invite dans sa chambre d'hôtel et vous êtes seul. Quelle force avez-vous? Si vous trouvez que ce n'est pas nécessaire, vous prenez une stratégie. Même s'il s'agissait d'une causerie importante liée au service, vous pouvez choisir un endroit qui vous préserve. C'est une stratégie. Néhémie a pris la stratégie. Il a demandé aux jeunes gens, aux hommes, pendant le temps qu'ils construisent, qu'ils prennent dans la main l'outil de travail. Et il y avait aussi dans une autre main une arme pour protéger la vigilance. Au cas où ils sont agressés par l'ennemi, ils savent qu'ils sont capables de déposer l'outil et d'utiliser maintenant l'arme pour l'autodéfense. Pour l'autodéfense. C'est ce qu'il a fait pour prévenir, afin qu'on ne détruise. Il est allé même jusqu'à dire, parce que les Juifs, certains, pouvaient traverser de là où ils étaient exilés pour venir à Jérusalem pour la construction. Il a fini par dire, comme la menace des ennemis devient de plus en plus élevée, chacun vient avec son serviteur, vous allez chaque fois veiller jour et nuit. La nuit, la journée, vous travaillez, vous construisez, et la nuit, vous veillez pour qu'on ne vienne pas détruire. C'est ça les stratégies, la prière, la mobilisation, la détermination, la vigilance ont beaucoup servi pour aider Néhémie avec ses compatriotes à construire les murailles de Jérusalem, et il a su contourner les intimidations des ennemis. C'est ça les épreuves auxquelles Néhémie a fait face. Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, vous savez que nous sommes des différentes catégories. Il y a les choristes, il y a des chrétiens choristes, il y a des chrétiens pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des anciens de l'Église, il y a des politiciens, il y a des commerçants. Tout ça, c'est la mission que Dieu nous confie dans son Église. Et il y en a plus que ce que je viens de citer. Cela est voulu par Dieu. C'est quand vous réalisez avec succès votre mission, la mission que Dieu vous a confiée, ça donne la gloire à Dieu. Et les gens vont croire à ton Dieu. Mais si vous vous compromettez dans l'une de ces activités que nous venons de citer, je vous assure, vous aurez failli à votre mission. Donc, comme c'est voulu par Dieu, il faut savoir qu'il y a aussi des épreuves. Parfois, ce sont des corruptions que vous demanderez. C'est très simple, c'est facile de glisser. Ça, c'est une tentation. C'est un test à quel degré ce monsieur est différent des autres. Cette dame est différente des autres. Dédouanement, c'est très simple. Il suffit de faire comme ça et vous facilitez beaucoup de choses qui, d'une façon illégale, tout ça sont des épreuves dans notre métier. Nous, les enseignants, qu'est-ce que nous ne faisons pas pour être corrompus et faire passer si nous ne prions pas et si nous ne comprenons pas que notre travail, notre tâche, ça vient, c'est une mission de Dieu. Comment je me comporte devant cette épreuve? Comment je gère cette épreuve? J'ai appris dans certaines écoles, les TP sont toujours accompagnés d'une enveloppe. Comment vous vous tenez pour être différent des autres afin de réaliser votre mission? On sait de cette institution-là. Les ONG, les 10% de retour, est-ce que c'est légal vraiment? Ne voyons-nous pas que tout ça, ce sont des épreuves? Au modèle de Néhémie, prenons des stratégies. Quand j'ai travaillé dans une ONG, j'ai appuyé les projets de certains partenaires. Alors, comme ils en avaient l'habitude avec les autres coordonnatrices ou coordonnateurs, pour moi, ils ne savaient pas que j'étais différente d'eux, de ces autres-là. Ils ont fini l'activité, tout avec des termes de référence, et j'ai donné l'argent. Et à la fin, dans les rapports, ils remettent $100 dans une enveloppe avec les rapports. J'ai dit, et cette enveloppe, c'est quoi? Ils disent, non, s'il y a de l'argent, il y en a combien? Il y a $100. J'ai dit, est-ce que vous avez réalisé l'activité? Pourquoi vous avez menti que vous allez utiliser cette somme pour cette activité? Non, vous savez, nous avons voulu vous donner, vous récompenser pour ça. J'ai dit, vous ne savez pas que je suis payé pour ça. Et j'ai dit, désormais, comme vous n'avez pas utilisé l'argent, allez à la caisse, c'était en étage, remettez cet argent dans la caisse et on va vous donner les récits de retour. Et ils étaient très, très déçus quand je les avais. C'était une épreuve. C'est bon de prendre les $100, mais est-ce que ce n'est pas une épreuve? Quelle mission ai-je devant ces autres-là? Et à la suite, tous ceux qui déposaient le projet chez moi, s'ils parlent là à l'extérieur pour dire, oh, nous ne savons pas si elle va accepter notre projet, vraiment, est-ce que je vais lui dire que je vais lui donner les 10%? Mes collègues qui me connaissaient, ils ont dit, si vous dites ça, on va rayer votre projet, vous ne serez même pas partenaire ici. Donc, ce sont des petites choses, des épreuves, mais comment nous les contournons? C'est pour dire que dans notre mission, vraiment, nous voulons apprendre. Vous allez continuer peut-être à lire Néhémie, parce que nous n'avons pas lu toute l'histoire et l'entièreté, à essayer de faire cet exercice, de lire ce livre de Néhémie. Vous allez voir comment il s'est comporté devant une épreuve, pour que ça soit une inspiration pour vous et que ça soit aussi une inspiration pour moi. La prière, la reconnaissance que nous sommes en mission, la mission de Dieu, et quand nous prions, Dieu ne nous abandonne pas, mais il nous accompagne pour surmonter l'épreuve. La stratégie, qui est une action concrète, ce n'est pas que Dieu agit dans l'obscurité et dans l'abstrait. Il faut une action concrète. Comme Néhémie a fait, il a placé les gens ici et là à des endroits stratégiques pour protéger la construction contre les ennemis. La mobilisation des autres et entamer l'action concrète, protéger, soyez vigilants devant l'épreuve et Dieu va réaliser la mission avec vous. Que Dieu nous bénisse.